Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille, une pastille draft. La draft, c'est dans moins de 30 jours. Ça va être un grand moment, encore une fois, vous aurez droit de voir nos têtes choquées à chaque choix du top 10. Et aujourd'hui, on ne va pas vous parler top 10, malheureusement, parce que comme hier, on va vous parler d'une équipe qui a échangé son premier choix, ce sont les Los Angeles Rams. Alors, un échange du premier choix fructueux, puisqu'ils ont finalement gagné le titre, mais qui les pénalise pour leur reconstruction. Pour m'accompagner, comme toujours, Grégory, salut à toi.
Salut Victor, bonjour à tous.
Donc on disait, les Rams ne vont pas choisir au premier tour, mais eux au moins vont choisir au deuxième, contrairement aux Broncos. C'est déjà une progression. Donc le choix, c'est de 36. Et pour commencer, on était assez en ligne sur les besoins de cette équipe. On va commencer par le pass rush. Et tu vas nous parler d'un joueur au profil vraiment intriguant. C'est B.J. Ojulari, le frère d'eux, qui nous vient de LSU.
Tout à fait, parce que c'est vrai, quand on regarde un petit peu ce qui a été fait pendant la free agency du côté des Rams, grosse opération reconstruction, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et autant en attaque, on peut se dire que bon, faut peut-être un petit peu de matière pour reconstruire autour de Stafford, mais en défense à l'heure actuelle, au-delà d'Aaron Donald, c'est un chantier assez monumental. Et à mon sens, il faut vraiment, notamment dans les tranchées, remettre un petit peu de sang neuf dans cette équipe-là. Et il y a un poste notamment qui me paraît très important à remplacer, c'est celui de Leonard Floyd. C'est-à-dire que du coup, il me faut dans l'idée un pass rusher, mais peut-être un pass rusher avec une mobilité un peu plus certaine, un profil un peu polyvalent, une espèce de jack, hein, comme on pourrait dire, un defensive end, outside linebacker en fonction des formations. Assez complet, pas uniquement pass rusher, et ça, B.J. Ojulari, à mon sens, sait parfaitement le faire. Tu disais, frère d'Aziz Ojulari, qui évolue actuellement du côté des New York Giants, qui a été un titulaire vraiment émérite du côté des LSU, capable d'avoir une bonne panoplie de moves globalement, profil assez athlétique, assez grand aussi, hein, donc vraiment, il a quand même une capacité, je pense techniquement, à pouvoir prendre son adversaire à défaut par de multiples biais et en plus à être assez habile, notamment sur la poursuite si le besoin s'en fait sentir, hein, pour vraiment justement contenir ces fameux quarterbacks mobiles. Et il y en a encore quelques-uns dans sa division, enfin dans sa supposée future division que serait la NFC West. Donc voilà, profil assez complet. Pour moi, ce n'est pas un des pass rushers les plus aboutis aujourd'hui, parce que sa production aurait peut-être pu être plus intéressante du côté de Louisiana State. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'armes qui lui permettront, sans être un premier tour assuré de cette draft, d'être un joueur extrêmement intéressant sur lequel capitaliser et justement obtenir un titulaire décent d'emblée sur un pass rush qui en a cruellement besoin aujourd'hui.
Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai même, on en discutait un tout petit peu plus haut. Je pense que ça peut être un premier tour, mais en tout cas, dans l'idée, après les comparaisons, mais je me dis, ça peut devenir un Hassan Reddick. À voir, c'est vrai qu'il ne coche pas forcément toutes les cases physiques, mais il me plaît. Un autre joueur, moi, que j'ai pris, toujours dans l'idée d'un pass rusher, même s'il est peut-être un tout petit peu plus pass rusher traditionnel que Ojulari, c'est Félix Anudike-Uzoma, donc de Kansas State, champion de leur conférence, hein, puisqu'ils avaient battu TCU, si je ne dis pas de bêtises. Écoute, c'est un joueur, moi, qui m'intrigue beaucoup. Ça fait quand même 2 ans qu'il produit, hein, c'est pas une découverte de cette année. C'est un joueur extrêmement rapide, extrêmement explosif, capable de déborder à peu près n'importe qui. Après, il y a des points d'interrogation qui le font descendre au second tour. C'est qu'au niveau de la force pure, il n'est pas forcément aussi puissant que ses dimensions physiques pourraient le laisser paraître. Et du coup, j'ai peur que, en fait, il soit un peu limité à attaquer à l'extérieur par sa rapidité un peu trop souvent. J'ai envie de voir chez lui un peu plus de bull rush, un peu plus d'attaque intérieure, en tout cas d'attaque intérieure qui marche, puisque pour l'instant, j'ai l'impression que quand il attaquait à l'intérieur, il restait un peu perdu dans la foule. Mais encore une fois, il n'avait pas non plus autour de lui des joueurs, selon moi, extraordinaires. Je trouve que des attaques, surtout en fin de saison, se sont beaucoup, beaucoup concentrées sur lui. Donc c'est parfois difficile de produire à l'intérieur quand tu as deux mecs sur le dos, hein, par définition. Mais j'aime bien ce joueur parce que un tel athlète, aussi rapide, aussi soudain, et beaucoup plus, on va dire, diversifié techniquement qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'il est capable de vraiment passer en vitesse pure, mais il est capable aussi de feinter. Il est capable de faire des mouvements pour tromper son tackle. C'est un joueur, pour moi, ça sera peut-être pas le meilleur défenseur contre la course, mais en termes de pass rusher pur, de mec qui doit produire des sacs, ben, on a un beau candidat là.
Oui, clairement, ça me paraît un choix intéressant. Après, voilà, c'est vraiment, enfin, je trouve que Anudike a un profil beaucoup plus intimidant, on dira, que Jewelry. Mais de toute façon, quand on voit l'autre côté, enfin, à l'heure actuelle, le defensive end peut-être titulaire aujourd'hui du côté des Rams, c'est Hornace Brown. Donc, de toute façon, je pense que tu cherches un profil avec un peu plus d'agilité ou un peu plus de physique, je pense que les Rams en sont très contents, quoi qu'il arrive.
Et quoi qu'il arrive, il risque d'être titulaire au
C'est
premier jour.
ça.
Écoute, là-dessus, on est assez d'accord. Sur le deuxième choix, là encore, une unanimité, une sorte de communion des esprits qui nous anime, puisque on est tous les deux partis sur le poste de cornerback, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain Jalen Ramsey est parti et qu'il va falloir le remplacer. Et toi, tu es resté chez Kansas State, puisque tu nous as choisi Julius Brent.
Tout à fait. Alors je ne sais pas s'il est rare, je ne sais même pas s'il a eu lieu, hein, alors on enregistre cette émission, mais je ne sais pas si les Rams étaient au Pro Day de Kansas State, mais si ce n'est pas le cas, je ne comprendrai pas. Hein, puisqu'en l'occurrence, oui, je pense que Julius Brent peut être un profil qui les intéresse. Dans ce profil où en effet, dans ce profil de cornerback, avec de la taille et surtout une aptitude à défendre en presse. Ce qu'ils n'ont peut-être pas forcément aujourd'hui, hein. Là encore, les deux cornerbacks qu'on a actuellement sur le papier, c'est Kobe Durant, rookie la saison dernière, et Derrion Kendrick, qui me semble était aussi rookie l'année dernière, mais qui sera peut-être plus sur un poste de nickelback. Donc il peut y avoir d'autres décisions, bien entendu, qui sont prises en attendant sur la free agency. Mais il y a clairement un déficit de taille et surtout de capacité à intimider les receveurs adverses que pouvait avoir Jalen Ramsey, notamment sur sa première partie de parcours du côté de la Californie. Donc c'est vrai que Julius Brent, à ce côté-là, c'est vrai que c'est un profil très intrigant parce qu'il a à la fois cette taille et cette rapidité. Il y a, on va dire, des composantes techniques, en tout cas une mobilité peut-être du bas du corps à perfectionner. Il faut savoir que c'est un joueur qui a joué relativement tard en college football parce que du côté d'Iowa, ce n'était pas forcément un titulaire indiscutable. Il a fallu qu'il transfère notamment du côté de Kansas State pour avoir du temps de jeu. On a vu que tout l'étendue de son talent, donc l'échantillon est relativement faible par rapport à d'autres en tout cas, mais on voit très clairement qu'il y a de la matière et que ça peut être un titulaire assez rapidement en NFL. Et un titulaire capable de marquer son territoire très très vite.
Oui, comme la vie est bien faite, tu parlais du Pro Day de Kansas State, et bien cette pastille, si j'ai bien compté, sera pour le 31 mars, et le Pro Day aura lieu le 31
Eh
mars,
ben c'est beau, tu vois.
justement.
Amusez-vous à repérer les scouts des
N
Rams.
N'hésitez pas à regarder en direct les Pro Day de Kansas State. Écoute, moi je suis parti sur un autre joueur, un joueur qui divise, DJ Turner. Qui s'est pas forcément montré à son avantage dans un certain gros match et ce qui lui coûtera certainement un petit peu de place à la draft. Mais écoute, c'est un joueur qui jouait pas hein, au début de sa carrière à Michigan. Enfin, j'ai pas l'impression, pas le souvenir en tout cas. Et finalement, il est très vite devenu un vrai leader, sur les années 2021 et 2022. Là encore, même s'il est un tout petit peu petit, ça reste un bel athlète au poste de cornerback, un joueur rapide, assez explosif, plutôt intelligent. Il se fait pas souvent avoir par les feintes, il arrive à être vraiment en position. Après, face aux gros receveurs, quand il faut jouer des 50-50, eh ben, il est un peu, comment dirais-je, timide, on va dire. Du mal à imposer son physique. Et on a vraiment l'impression, même en presse, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, ah, c'était pas trauma et tout. Moi, je trouve qu'en presse, c'est quand même un peu fait manger. J'ai l'impression que c'est le cornerback qui, pour réussir, doit prendre encore un peu de masse musculaire. Mais tout le reste, il l'a. Le QI football, les mains qui sont très sûres, les jambes, je disais, explosives, rapides. Il lui manque vraiment juste cette dimension physique pour réussir en NFL parce que il n'y a quand même pas des monstres physiques, il n'y a pas des Quentin Johnston et des J. Brown dans chaque équipe, donc il va pas non plus avoir un mauvais match-up à chaque match. Je pense qu'il faut le protéger peut-être la première saison en le mettant face à des joueurs rapides qu'il arrivera à défendre en miroir, comme on dit, et puis peut-être que s'il prend de la masse musculaire, il pourra devenir plus complet, mais ça reste un joueur. Là, on parle d'un choix, si je ne dis pas de bêtises, 69. Donc, on parle de début de troisième tour. Bah, il y a quand même les capacités athlétiques qui me donnent envie de prendre en début de troisième tour.
C'est sûr. En fait, ce qui est très perturbant avec DJ Turner, c'est que on a vu beaucoup d'inconstance, je dirais, durant son parcours du côté de Michigan. Parce qu'il y a des matchs où, en effet, dans un bon jour, ça peut être un corner absolument injouable. J'ai souvenir notamment d'un match contre, je crois que c'est contre Ohio State, lors de la saison 2021, où il avait fait un match assez énorme du côté d'Ann Arbor. Mais c'est vrai que globalement, c'est un cornerback qui, en effet, se laisse souvent manger, je trouve, sur certains tracés. Pas mal de difficultés enfin, vis-à-vis de certains adversaires. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des petits sautes de concentration par moment qui en font un joueur, malheureusement, qui va énormément frustrer. En NFL, en tout cas dans un premier temps, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attributs. Enfin, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser en effet qu'en NFL, il peut quand même avoir rapidement voix au chapitre. Voilà. Après, bon, c'est un petit peu gonflé, notamment par son gros 40 yards au combine, je pense. D'un point de vue production, ça n'a pas été extraordinaire, notamment d'un point de vue interception. Mais il y a énormément d'éléments à mettre à son actif en effet avant de rejoindre la Grande Ligue.
Et pour le troisième choix, qui se situe pas beaucoup plus loin, parce que c'est le choix 77, je vais pas dire une surprise, mais un joueur qu'on annonçait au premier tour, avant la saison, je pense qu'on peut le dire, ou en tout cas fin de premier tour, Noah Sewell, frère 2, linebacker de Oregon. J'ai une question en deux étapes. Pourquoi a-t-il chuté? Et qu'est-ce qui fait que tu crois encore qu'il puisse devenir un très bon joueur de NFL?
Alors, Noah Sewell, j'en avais déjà parlé dans un autre contexte, je sais plus, je pense que c'était justement sur l'émission spéciale Linebacker avec Nitti à l'époque. À mon sens, je fais partie de ces gens qui considèrent que peut-être du côté d'Oregon, on l'a surutilisé. Peut-être, bon, à mauvais escient, encore une fois, voilà, il y a un profil athlétique qui faisait que forcément, bah, t'es toujours intrigué d'utiliser l'un de tes meilleurs joueurs sur le papier, sur différentes positions. Mais j'ai retrouvé alors, une baisse de régime qui n'était pas aussi significative, bien entendu, mais un côté production qui m'a déçu, un peu comme ça pouvait être le cas de Thibodeau à sa sortie d'Oregon. Et du coup, je me dis que certes, il y a des choses qui posent problème. C'est pas normal que d'un point de vue plaquage, on ait un joueur de ce profil-là qui semble parfois passer à côté de ses rencontres. Qu'il ait pu avoir cette tendance à peut-être être beaucoup trop instinctif et à comment dire, négliger un petit peu certains angles pour un joueur qui est principalement amené à être un stopper. Parce que je pense que voilà, même si en effet il a un profil athlétique qui peut lui permettre de faire pas mal de choses, en tout cas un gabarit qui peut lui permettre de le faire, je le vois vraiment comme un joueur justement capable d'être un run stopper avant tout, un vrai middle linebacker à l'échelon supérieur. Il a cette capacité pour le faire et je fais partie de ces gens qui considèrent que le plaquage, ça fait partie de ces choses qui peuvent être apprises par un coaching staff, hein, en tout cas pas forcément les choses qui peuvent être les plus compliquées à mettre en place. Donc voilà, là très franchement, ça fait partie de ces joueurs peut-être par rapport à ce qu'on disait un petit peu avant, dont le QI football est perfectible. Mais je trouve qu'il y a une denrée tellement rare sur cette position d'inside linebacker, sur un poste à besoin pour les Rams, qui ont vraiment ce besoin du coup de renouveler leur escouade de run stopper, notamment depuis le départ de Bobby Wagner, qui a récupéré un Noah Sewell avec en plus la perspective et la marge de progression qu'on peut en obtenir, vu la situation actuelle du côté de Los Angeles, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Oui, bah, je suis parti un peu sur la même logique avec un linebacker, mais un peu différent. Mohamed Diabaté, qui avait même pas été invité au Combine, je crois. Ça m'a un peu surpris. Donc, joueur de Utah, le Devin Lloyd 2.0. Non, quand même pas, on va se calmer, sinon il serait pas en 77. Écoute, moi, c'est un joueur que je trouve en progression d'année en année en année. Il a commencé sa carrière à Florida, hein, si je ne dis pas de bêtises. Là encore, on est sur un vrai athlète, rapide, capable vraiment d'avoir un déplacement nord-sud très soudain, mais également est-ouest. C'est un joueur qui progresse, que ce soit en couverture, que ce soit en défense de course, que ce soit en QI football. Il n'est pas encore parfait, hein. Il se fait parfois avoir dans le bloc. Il a des angles de plaquage qui ne sont pas toujours idéaux, mais vraiment, moi, ce genre de joueur que je vois progresser d'année en année en année, j'ai toujours tendance à me dire, pour que tu progresses comme ça, c'est que tu es un bosseur. Et ces bosseurs, ils trouvent toujours une place en NFL. Et du coup, moi, je pense que ça fait partie de ces rares joueurs au troisième ou quatrième tour qui ont la maturité pour peut-être même être titulaire dès la première année. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est moins flashy que Sewell. Ça a certainement un plafond qui est peut-être plus bas, mais je trouve qu'il y a un potentiel de chance qu'il atteigne ce plafond qui est plus élevé, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce joueur. Encore une fois, je trouve que Utah, en ce moment, ils arrivent à construire des joueurs qui arrivent pour l'instant à faire la transition. En NFL, même si Devin Lloyd a eu des hauts et des bas, mais ça reste quand même un excellent joueur. Et du coup, j'ai envie de croire que même s'il n'a pas été invité au Combine, Diabaté, pour moi, c'est une fin de troisième, début de quatrième tour.
Oui, pas grand-chose de plus à dire, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Bon, on va passer sur nos sleepers. Et alors toi, ton sleeper, c'est le coureur le plus jeune de cette draft. J'ai vu passer ça
Ah,
sur Twitter il y a
ça a
pas
dû te faire plaisir, ça. C'est fini les vieux.
Ben non, mais au niveau des coureurs, de toute façon, à 26 ans, ils sont cassés. Donc
ça.
autant qu'ils soient jeunes. Israel Abanikanda, donc
Oui.
joueur des Panthers de Pittsburgh. Dis-nous ce qui te donne envie, puisque par définition, tous les running backs sont des sleepers, hein. Mais qu'est-ce qui te fait penser que ce joueur, qui en effet sera une fin de draft, peut vraiment être impactant, que ce soit en tant que joueur pur ou dans un comité?
Ouais. Alors forcément déjà sa position, ça dépend en effet de la considération globale de la classe de running back. Hein. J'ai pas dans l'idée qu'Abanikanda soit dans le top 10 des running. Et je le disais un petit peu avant, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de besoins dans cette équipe des Rams. Et ce qui fait qu'on va peut-être pas prioriser forcément les coureurs d'emblée. Hein. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a sur le papier Cam Akers et Kyren Williams qui a été drafté l'année dernière. Je pense qu'Abanikanda, même s'il a ce défaut majeur qu'on recherche qu'on place de plus en plus chez les running backs, c'est-à-dire peut-être une protection sur le jeu à la passe qui peut être un peu problématique, surtout quand tu es censé avoir un Matthew Stafford qui revient de blessure, ça peut être rédhibitoire. Après, j'ai pas dans l'idée que ce sera le running back numéro 1. C'est un running back qui. Alors, je vais pas dire que c'est un Jahmyr Gibbs du pauvre, mais je trouve qu'il y a des similitudes dans cette aptitude à être vraiment un home runner, comme on les appelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui a quand même une assez bonne lecture de jeu. Qui a une capacité d'accélération absolument fulgurante, qui a des bons appuis également. Après, malheureusement, en effet, sa protection du ballon, c'est bien, ça dépaysera pas forcément les fans des Rams, peut être meilleure que ça, on est d'accord. Y a en sortie de backfield, ce sera pas forcément le joueur le plus flamboyant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après, à mon sens, ils ont aussi pris Kyren Williams pour ça l'année dernière, donc ce sera pas forcément déconnant. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment un running back numéro 3. Comme je disais, alors peut-être ça peut être un bon sixième tour, peut-être Israel Abanikanda, on va dire à peu près, là encore en fonction de ce que donne la QV globale. Mais vraiment un running back que tu vas sortir du chapeau de temps en temps pour éventuellement bah, faire des big plays, pour essayer de prendre un défaut de la défense adverse et rester justement dans cette logique de comité de coureurs, mais comité vraiment avec du punch et de la capacité à apporter de la vitesse. C'est dans cette logique-là que je suis parti sur Israël à Benikanda.
Eh bien, écoute, moi, je suis parti sur un running back aussi, un profil un peu différent, Mohamed Ibrahim. Moi, quand je regarde, en effet, tu l'as dit, il y a du Kyren Williams, il y a des joueurs pour sortir du backfield, faire des réceptions, etc. Moi, j'avais envie de rajouter un peu des kilos, notamment parce que je ne suis pas un croyant de K-Maker sur le long terme. Mais Mohamed Ibrahim, moi, je trouve que c'est le running back à l'ancienne, entre guillemets. C'est un coureur quasi exclusif. Utilisera pas beaucoup en réception, mais alors c'est une force brute, pas le joueur le plus rapide, mais un joueur extrêmement puissant, un bel équilibre. Les yards après contact, ça il les prend hein, parce que il a l'épaule en avant et il n'hésite pas à aller au contact. Je trouve que c'est vraiment le joueur que tu veux sur des 3 et 1, sur des 4 et 1, sur des 3 et 2, et c'est quand même précieux d'avoir ce type de joueur. Alors oui, il a 25 ans, oui, il a eu une grosse blessure en université, donc forcément, c'est pas le joueur le plus explosif, il partira au 6e ou au 7e tour, mais dans un comité, tu as toujours besoin d'un bulldozer, et je trouve qu'il fait bien l'affaire dans ce rôle-là.
Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis un profil légèrement différent, je pense que...
Oui, on peut pas faire beaucoup plus différent entre les deux, mais...
Ah voilà. Oui, voilà, il y a deux écoles, comme dirait l'autre.
Il y a un tracteur et un lapin. Eh bien voilà, on a fait le tour pour nos chers béliers de Los Angeles. Évidemment, ils n'auront jamais été aussi flamboyants quand ils étaient à Saint-Louis, mais ça c'est une autre question. Ouais, on vous souhaite une bonne journée et on vous retrouve dès demain avec, je ne me souviens plus, ah oui, avec l'équipe de Jean-Michel Boujard, les Las Vegas Riders. Salut à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.